liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré con.
Bonjour, amis, bonjour. Amis de Fréquence 7, parce que la parole n'est donnée qu'à ceux qui la prennent, ici les citoyens s'en saisissent pour faire entendre leurs idées, leurs projets, leurs revendications pour une société plus juste, plus solidaire. Vous voulez réagir? Voici notre mail. paroledecitoyen@fréquence7.net, en minuscule singulier, tout attaché. Nous lisons tous les mails que vous nous adressez. Au menu du jour, comme il se doit, une entrée, un plat de résistance et un dessert. En entrée, nous ferons le point sur les luttes, avec Dominique, sur les actions, conférences, passées et à venir de notre territoire. En plat de résistance, nous nous interrogerons, mais comment sont faits les choix et pourquoi c'est jamais comme on les aurait fait, nous, citoyens? Et nous terminerons toujours en solidarité avec le peuple palestinien, génocidé, en partageant avec vous une recette de leur belle culture. Surtout, prévoyez papier et crayon. Bon appétit. Alors Dominique, au niveau des luttes, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui?
Alors comme d'habitude, tu parlais de la Palestine et du peuple palestinien. Samedi prochain, comme samedi dernier, je ne sais plus à combien on en est, là ça fait plusieurs mois maintenant que ça dure, tous les samedis à 11h, ceux qui veulent soutenir le peuple palestinien et exiger un cessez-le-feu se retrouvent à 11h à l'Agora à Aubenas. Donc ça sera encore le cas ce samedi. Et sur ce même sujet, avec Edwige, nous vous recommandons la lecture des rubriques régulières de Rami Abou Jamous sur le site Orient 21. C'est un site qui est dédié en général à tout ce qui se passe dans le Moyen-Orient. Et plus particulièrement, Rami est palestinien, il vit en Palestine à Gaza. Ce fondateur de Gaza Press, un bureau qui fournissait aide et traduction aux journalistes occidentaux, a dû quitter son appartement de la ville de Gaza avec sa femme et son fils Walid, qui a 2 ans et demi. Il partage maintenant un appartement de 2 chambres avec une autre famille. Il raconte son quotidien et celui des Gazaouis de Rafah, coincés dans cette enclave miséreuse et surpeuplée. Ce journal en ligne, Orient 21, lui réserve un espace qui est son journal de Gaza, où il raconte la vie là-bas au quotidien. Sa dernière contribution, le 7 avril, s'intitule « Même s'il n'y a plus rien dans le Nord, nous voulons rentrer chez nous ». Ce texte nous a beaucoup émus avec Edwige, et le passage qu'elle va vous lire maintenant nous a inspiré la recette du jour.
Aujourd'hui, j'ai reçu un appel téléphonique de mon ami Chahine, le père de Doudou, la fillette dont je vous ai déjà parlé. Elle vit avec sa famille dans la ville de Gaza, où la famine s'est installée, comme dans toute la partie nord du territoire. Chahine est très content. Il voulait m'annoncer une bonne nouvelle. Pour la première fois, les camions sont entrés dans le nord de la bande à partir du terminal israélien d'Erez. Un camion de fuel et 2 camions de médicaments. Chahine m'a dit « Tu m'avais dit dans une discussion que les choses allaient peut-être changer. Surtout au niveau humanitaire après la mort des 6 martyrs. » En référence aux 6 expatriés de l'ONG World Central Kitchen que les Israéliens ont tués. Chahine pense que ce sont les premières gouttes d'aide humanitaire qui commencent à entrer au nord de la bande et dans la ville de Gaza. Il a ajouté « Tu crois les déclarations du cabinet de guerre israélien quand ils disent qu'ils vont augmenter le nombre de camions à 500 par jour ? Et que la Jordanie va aussi faire passer des camions au lieu de nous envoyer ces aides parachutées qui nous humilient. » Et j'étais très content de son appel, parce qu'il me poussait un peu à l'optimisme. Ces premiers camions semblent en effet confirmer notre dernière conversation. En même temps, je ne voulais pas lui dire qu'avec les Israéliens, on a l'habitude que les choses prennent du temps entre les paroles et les actes, et que parfois il n'y a que des paroles, pas d'actes. Mais cette fois, je crois que ce ne sont pas juste des annonces. Peut-être que l'aide n'arrivera pas tout de suite, qu'elle ne passera pas immédiatement à 500 camions par jour, mais je crois qu'il va y avoir quelque chose. En tout cas, mon ami Chahine était content de notre conversation et je lui ai remonté le moral comme d'habitude. Il m'a passé Doudou au téléphone. Elle était contente. « Amour ami, tu crois qu'on va manger des boîtes de conserve et de la viande à nouveau ?»« J'ai entendu dire qu'Arafa, il y a du poulet qui est entré. Est-ce que nous aussi on va pouvoir en manger ?» J'ai répondu que oui. Bien sûr, on allait avoir du poulet et aussi des fruits. « Des fruits ?» Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ce mot, a-t-elle répondu. Ça n'existe plus chez nous. Les légumes aussi, ça fait longtemps qu'on n'en voit plus. Depuis que tu m'avais envoyé quelques boîtes de tomates et la boîte de conserve de viande, je l'ai rassurée. Ne t'en fais pas. Si la nourriture n'entre pas au nord, je t'enverrai, comme la dernière fois, du poulet et des fruits aussi. À Rafa, on a eu des pommes. Je suis sûre que vous allez en recevoir à Gazaville. » Elle a sauté de joie. J'ai entendu son rire. « C'est vrai, on va faire un fateh. Tu seras invitée. J'espère qu'on pourra le manger ensemble le dernier soir du Ramadan à la veille de l'Aïd. » J'ai dit à Doudou que j'espérais aussi déguster ce fateh avec eux et que tout ça allait finir. Elle était très contente et moi aussi. J'adore entendre son rire. Cette joie dans le cœur de Doudou, c'est grâce à ces martyrs de l'ONG. Oui, je dis grâce, car la vie de 2,3 millions d'habitants de Gaza va peut-être changer. Alors, on va écouter un petit rap d'un jeune palestinien que Sylvain va nous envoyer. 'Cause the same thing happened in 48. My grandparents got evicted and forced to move away to the refugee camp in Gaza. No, nothing has changed. They can never return, so that's where I am today. Getting calls from cousins to see if I am alive. This year is not fireworks that are lighting the sky. We're trying to celebrate an Eid and keep the faith. I guess you could say it's how memories are made. Palestine.
Alors, au niveau local, nous avons appris la dissolution de Vivacop. De nombreux Sud-Ardéchois et Sud-Ardéchoises y ont travaillé. Vivacop, basée à Saint-Cernin, c'était une coopérative de fruits et de légumes créée il y a 75 ans en Sud-Ardèche par les producteurs locaux. Elle a été la plus grande coopérative d'Europe dans la production fruitière. Elle a traité jusqu'à plus de 27 000 tonnes de fruits en 1981. Nous y voyons le signe malheureux de l'évolution de la production agricole sur notre territoire. De nombreux fruitiers arrachés, de moins en moins de terres agricoles pour le maraîchage, et de la vigne, encore de la vigne et du pinard, mais ça nourrit personne à part ceux qui les font pousser. Un article avait été consacré à cette coopérative en 1977. Elle s'appelait, cet article, « Une coopérative fruitière exemplaire, Vivacop en Ardèche », et l'article était de Pierre Bozon, était paru dans la revue Norrois, numéro 95 Terre. On peut la retrouver maintenant sur le site Percé, si on veut lire cet article. C'était une coopérative exemplaire au niveau européen. Et on peut peut-être maintenant se mettre une petite musique.
Une petite musique de Bourville qui était qui est toujours très très belle et qui me fait penser justement à la renommée de Vivacop.
Voilà.
Ta mère t'a donné comme prénom salade de fruits, oh quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie.
Alors, on arrive au moment du plat de résistance. Nous avons abordé ici à plusieurs reprises diverses choses se passant sur notre territoire concernant l'utilisation des sols, du foncier et donc de l'avenir pour nous et nos enfants ici. Nous avons parlé du PLUI sur la communauté de communes du bassin d'Aubenas en cours d'élaboration et pour lequel les habitants doivent absolument se préoccuper de donner leur avis au fur et à mesure de ces différentes étapes. Ces PLUI sont en cours un peu partout en Sud-Ardèche. Mais pour donner son avis, encore faut-il pour cela être informé, entendre différents points de vue, parfois contradictoires, pour se forger une opinion. Et on ne peut pas dire que les élus s'en préoccupent beaucoup. Nous avons reçu des citoyens et citoyennes qui, pour cela, ont créé un collectif, le CAABA, qui recherche sur ce territoire les terres agricoles intéressantes à protéger, selon eux, de par leur potentiel productif. Nous avons également des citoyens qui se sont donnés comme objectif de protéger la vallée de la Besorgue contre les usages excessifs qui la menacent et qui attendent du PLUI qu'ils prennent en compte cette protection. Ils sont d'ailleurs allés le dire aux élus communautaires le mardi 8 avril lors d'une réunion du conseil portant en partie sur le PLUI. Le jour même, le propriétaire de la base de canyoning, base entre parenthèses, entre guillemets, démarrait une purge de la falaise sans aucune autorisation. État et élus fermant les yeux. Bien d'autres sujets de préoccupation dans le même ordre d'idées d'usage du foncier se présentent à nous quotidiennement. Ainsi, nous avions informé d'une réunion à Joyeuse le 24 février sur les projets d'implantation de panneaux photovoltaïques en grand nombre en divers endroits, notamment à caractère agrivoltaïque en Sud-Ardèche. Mais Dominique, je voulais te poser la question, est-ce que tu peux m'en dire plus sur l'agrivoltaïque? Qu'est-ce que c'est?
Alors, comme vous le voyez, c'est formé par deux mots, agriculture et volt photovoltaïque. C'est le couplage entre production solaire et production agricole. Et c'est perçu, c'est promu même, comme un moyen pour développer les énergies renouvelables, tout en apportant un complément de revenus aux agriculteurs et aux agricultrices. Voilà, c'est le « en même temps », hein, c'est la mode du « en même temps ».
Ça fait penser, en même temps, ça fait penser à quelqu'un, mais je ne dirais pas qui.
Moi non plus, je ne dirais pas. La programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE qu'on appelle, pour la période 2019-2023, a visé un développement des énergies renouvelables pour atteindre 40% du mix énergétique en 2030. Donc l'objectif de production d'énergie photovoltaïque là-dedans avait été fixé et de 140 gigawatts pour 2050, dont 45 gigawatts sur les sols agricoles et forestiers, c'est-à-dire 45 000 à 135 000 hectares à raison de 1 à 3 hectares par mégawatt. Et comme ils trouvaient que ça n'allait pas assez vite, ils ont assoupli les règles pour faciliter l'implantation de photovoltaïque sur des terres agricoles, des terres naturelles et des terres forestières. Pour beaucoup de personnes, ceci n'est ni souhaitable ni nécessaire. La loi a créé les ZADER, des zones d'accélération des énergies renouvelables, que les communes peuvent prendre l'initiative de créer. Donc ça, c'est à notre portée, ce sont les choix de communes. Grâce à cette loi, les communes peuvent désormais définir, après concertation avec leurs administrés, hein, précisons, il faut qu'il y ait concertation, des zones d'accélération où elles souhaitent prioritairement voir des projets d'énergie renouvelable s'implanter. Ces zones d'accélération peuvent concerner toutes les énergies renouvelables, photovoltaïques, solaires thermiques, éoliens, etc. Tous les territoires sont ainsi concernés et ils pourront faire leurs ZADER là, en fonction de leur réalité, des choix de la population, théoriquement. Bon, on s'aperçoit que la population n'est pas toujours informée ni au courant. Ce ne seront pas des zones exclusives. Ce n'est pas parce qu'il y a des ZADER qu'on n'a pas le droit d'aller faire un champ de panneaux photovoltaïques à côté. Hein, on peut aussi aller à côté, mais bon, la procédure est un petit peu plus différente, un peu plus compliquée. Et le gouvernement, là-dessus, vient de sortir un décret, juste la semaine dernière, qui autorise que les surfaces agricoles soient couvertes à 40% de panneaux photovoltaïques et acceptant les pertes de production que ça induit. Parce que c'est bien beau tout ça, mais du coup, dessous, ça ne pousse plus très bien. On a vraiment l'impression, comme on l'a avec la voiture électrique et le vélo électrique, etc., qu'on nous fait en permanence de la pub, mais juste pour consommer de l'électricité. On ne voit pas bien quel est l'effet positif que ça a derrière. L'électricité deviendrait la seule énergie vertueuse, quelles que soient les conséquences à moyen et long terme, non seulement pour nous, mais pour nos enfants et nos petits-enfants. Alors, tous ceux qui font pousser quelque chose dans la terre savent d'avance les conséquences que vont avoir ces couvertures artificielles sur des hectares de terre. Perte d'enherbement, comme si déjà on avait trop d'herbe sur les sols calcaires que nous avons en Sud-Ardèche. Perte de faune, ce qui à terme veut dire stérilisation de ces sols. Ce qui veut aussi dire pour les agriculteurs qui font ce choix que progressivement, ce n'est plus leur production alimentaire qui va les faire vivre, mais la vente de leur production d'électricité. Mort de l'agriculture, et vive l'industrie qui s'accapare toutes les terres et toutes les productions. Alors comment se fait-il que devant tous ces risques évidents, on ne privilégie pas de couvrir ce qui est déjà couvert, c'est-à-dire tous les toits d'entreprises, d'exploitations agricoles, les granges, les étables, les particuliers, les immeubles, les HLM, les mairies, etc. Tout cela pourrait être recouvert de panneaux photovoltaïques et ça fait de belles surfaces sans porter atteinte au sol.
Voilà, d'ailleurs, il me semble que les bergères et bergers ne sont pas du tout contents de ces mesures-là.
Tout à fait, oui. Voilà.
On va écouter une petite musique de Richard Cochient pour rester dans le thème du soleil.
J'ai attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment, faut que je me rappelle si c'est un rêve de super belle.
Alors concrètement, Dominique, les projets près de chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Tu as des pistes à nous donner?
Alors, près de chez nous, oui, effectivement, il y a pas mal de choses qui se pointent. Via les citoyens qui se sont réunis à Joyeuse il y a quelques semaines, et quelques semaines avant à La Blachère, c'est-à-dire janvier La Blachère et février, je crois, à Joyeuse, on l'avait annoncé à la radio, qui cherchent à savoir, parce que tous les projets ils se font un peu plus ou moins en catimini, donc ça nécessite des enquêtes, des recherches, pour savoir ce qui est à jour. Ils ont identifié à ce jour en Sud-Ardèche 14 projets, plus un tout proche à Saint-Brest dans le Gard.
Tu as quelques noms de villages ou d'endroits géographiques?
Oui, alors il y a même des endroits, il y a des communes comme La Blachère qui ont 3 projets, ou 4 même, 4 projets sur La Blachère. Il y a Chandoulas, Berrias et Casteljau, Vaugu et La Ville-Dieu, Lanas, Saint-Alban-Auriol, Samson, Gros-Pierre, Saint-Didier-sous-Aubenas, Villeneuve-de-Berg. En gros, hein, je crois que je n'en oublie pas, qui ont été identifiés.
C'est la ruée vers le soleil, je pense. Hein.
Voilà, ruée vers le soleil. Alors là, il y a un mélange de privé, de public, de trucs communaux, de ZADER. Par exemple, si on prend un exemple, Saint-Alban-Auriol, eux, ils ont créé une ZADER, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, en 2023, pour plus de 30 hectares. En le couplant avec l'installation d'un agriculteur. Et hop, et voilà, on tombe bien dans l'agrivoltaïque dont on vous parlait tout à l'heure. Donc, je ne sais pas ce qu'il va mettre sous ses toits, là, l'agriculteur en question, mais je ne sais pas si ça va être bien, bien intéressant pour lui. D'un autre côté, par exemple,
il ne faudra pas qu'il fasse pousser des cactus, parce que ça ne marchera pas.
Voilà, je ne sais pas, ni rien d'autre. Et alors, les bêtes, je ne te dis pas. À Saint-Didier-sous-Aubenas, un autre projet, donc en septembre, doit commencer l'installation d'une centrale photovoltaïque de presque 3 hectares. Et cette structure en acier de 5 mètres de haut occupera un champ arboré qui sert aujourd'hui de pâturage pour des chevaux. Il sera couvert aux 3/4 par des panneaux, qui sont censés abriter à l'avenir des futurs kiwis, du soleil, du gel et de la grêle. Alors, je ne sais pas, moi, les kiwis sous les toits, bon, enfin bref. Évidemment, les associés là-dedans, c'est le propriétaire du terrain, la société canadienne Boralex, et ainsi, il y aura les panneaux exploités par la filiale d'Eiffage, Sunagri, qui revendra cette électricité aux fournisseurs d'énergie. Bien évidemment, les riverains, les habitants, etc., personne n'a été informé et ils découvrent le projet maintenant. Donc ils ont lancé une pétition. Voilà, si les citoyens ne cherchent pas ou apprennent par hasard un truc, ça passe...
Voilà, les multinationales, elles savent se faire discrètes hein, quand elles veulent.
Hein. Ah oui, tout à fait. Et on retrouve dans tous ces projets photovoltaïques et agrivoltaïques toujours le même souci. Des gros acteurs privés à la manœuvre, des élus qui n'informent pas la population et des décisions prises entre technocrates de l'État, des grosses entreprises comme EDF hein, et des élus isolés de leurs administrés.
Alors, ce problème démocratique, nous ne l'avons pas que pour le photovoltaïque et pour l'éolien. À partir de quelques exemples glanés sur notre territoire, nous nous demandons vraiment si les élus et nous, citoyens, sommes dans le même monde. C'est l'occasion d'écouter un petit extrait de Brassens.
On joue ça 5 ou 6 en buvant le pastis. On sort ses intégrales. On tire un godère qui tournoie dans l'air. Si c'est pile à toi, bébert. Vas-y Léon, envoie bien le bouchon. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques, et puis change ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir.
Merci, merci Dominique pour cette découverte là de Brassens. Je ne connaissais pas cette chanson.
Mais là, ce n'est pas Brassens, à mon avis. Si, c'est lui.
Je ne sais pas.
Oui.
On vérifiera. Ouais.
Et donc, les élus ont décidé l'implantation du siège de la pétanque nationale à Chomérac. La mairie de Chomérac a obtenu que la Fédération nationale de pétanque puisse s'installer sur Chomérac. Et finalement, pourquoi pas, hein? Où est le problème, Dominique?
Ah non, mais là, il n'y a pas vraiment de problème. Bon, on prend cet exemple de Chomérac parce que il permet de voir un peu comment les décisions se prennent et pour faire quoi. La question, c'est qu'il y a énormément d'argent public qui va aller sur ce projet-là, qui coûte quand même plus de 4 millions d'euros. Au détriment de plein d'autres projets qui attendent patiemment d'avoir un petit coup de pouce pour émerger ou maintenir leurs activités sur le territoire. Plus de 4 millions d'euros, c'est l'argent public, hein, uniquement. Parce que c'est un projet à 10 millions d'euros. La Fédération de pétanque, ils sont pas fauchés, hein. Ils ont 5 millions d'apports et ils ont la possibilité d'emprunter 5 millions d'euros. Donc alors, pourquoi est-ce qu'on va y mettre de l'argent public alors que l'argent, il y est, ils l'ont? Nous sommes toutes et tous concernés, en fait, parce que depuis les habitants de Chomérac jusqu'à la région Auvergne, tout le monde va payer pour la fédération. La région va financer à hauteur de 3 millions d'euros, le département 600 000 euros, la CAPCA 500 000 euros, la commune de Chomérac donne le terrain, qui sont des terres agricoles irrigables, pour 1 euro symbolique, 2 hectares, plus de 2 hectares pour 1 euro symbolique. Je pense que les agriculteurs du coin vont être contents de voir à combien on vend leurs terres. Et la commune exonère aussi la fédération de paiement de taxes d'aménagement, etc. Très honnêtement, on se demande quelles sont les retombées économiques attendues de ce projet pour y mettre tant d'argent. Donc bien sûr, évidemment, pour pouvoir faire ça, il faut qu'il y ait une révision du PLU, puisque les terres agricoles, eh ben, elles étaient protégées, hein, elles n'étaient pas censées servir à ce genre de choses. Et qu'en plus, la construction qui est prévue n'est pas du tout dans le style de ce qui est prévu de faire à Chomérac. Donc là aussi, ils doivent revoir le PLU pour le mettre en conformité, pour permettre cette construction qui doit pas être très belle, hein, puisqu'elle va choquer tout le monde dans les environs. Voilà, donc ça c'est un exemple de ce qui se passe et de comment les décisions se prennent. Loin, loin, loin des habitants et de ce qu'ils peuvent dire. Alors il y a bien l'enquête publique, elle est en cours. Est-ce que les habitants sont vraiment au courant, qu'ils peuvent s'exprimer, qu'ils peuvent aller sur le site de la mairie, renseigner l'enquête publique? C'est pas sûr parce qu'ils font pas beaucoup de propagande les élus quand ils prennent des décisions, hein.
Et on va écouter encore un extrait musical que Sylvain va nous envoyer, s'il te plaît, Sylvain.
Petit train, du matin, viendras-tu sur nos rails, sur nos rails. Petit train, du matin, viendras-tu sur nos rails, sur nos rails.
Dans le même temps, le train qui passe au Teil ne s'y arrête toujours pas. Cette histoire a d'ailleurs donné lieu à un article du Canard Enchaîné qui s'interroge sur les priorités de la région. Promettre 2,3 millions d'euros pour rétablir gare et train utiles à tous et donner 3 millions d'euros pour un siège de la pétanque qui va servir à qui? Vraiment, on n'a pas du tout le même sens des priorités que eux. De telles incohérences et choix insensés ne peuvent qu'amener les citoyens à se dire « mais qu'y a-t-il derrière ?» Tellement c'est incompréhensible. Et derrière chacun, il met ce qu'il veut, des magouilles personnelles, enrichissement, passe-droit, enjeux politiques pour tel et tel, pire, des complots occultes. Et pour les citoyens qui se posent des questions, ils se font traiter de complotistes. Alors qu'avec plus de transparence et moins de corruption, nous resterions tous dans des questionnements sensés. Alors, comme je vois l'heure tourner, on va On va passer au dessert. Et donc, comme nous vous le disions en entrée, c'est, au départ, c'est une recette palestinienne. Donc, on va écouter, un extrait de Fayrouz, Sanarjou Yaouman. Alors, c'était donc le titre, c'était Nous reviendrons. C'était par rapport à la diaspora libanaise éparpillée dans le monde. Donc, pour la recette, dans la petite fille du texte de Orient 2020, Orient 21 nous parle, c'est le fateh, c'est ça? Et c'est un plat typique du sud du Levant. Elle est qui est essentiellement composée de pois chiches, yaourt grec, pain pita grillé. C'est l'un des éléments de base de fin du ramadan, étant généralement consommé comme premier petit déjeuner. Pour les ingrédients, vous prenez des pois chiches déjà cuits, du yaourt grec, du pain pita, des noix de cajou ou pignons de pin, et grenades ou pistaches si vous avez, du sel, du poivre, de la cannelle et de l'ail. Vous coupez vos pains pita en petits morceaux, vous les mettez à frire dans l'huile de tournesol bouillante jusqu'à ce qu'ils rougissent. Puis mettez-les de côté afin qu'ils refroidissent. Pour les pois chiches, vous les réchauffez dans une casserole avec un peu de sel. Le yaourt, vous prenez un yaourt à la grecque que vous mélangez avec un peu d'ail, du sel, du poivre et la cannelle. Et ensuite, vous regroupez ces éléments dans l'ordre suivant. Les pois chiches, le pain, le yaourt. Mettez quelques morceaux de pain au-dessus du yaourt, les pignons de pain, grenades, noix de cajou. Je laisse Dominique conclure l'émission.
Eh bien écoutez, c'est terminé. On est en retard comme d'habitude. Et bien sûr, on vous rappelle notre mail pour toutes vos réactions. paroledecitoyen@frequence7.net, tout en minuscules. Dans 15 jours, au revoir.
Au revoir et puis merci
à Sylvain.
Merci pour la réalisation. Au revoir, à bientôt.
Liberté, égalité, révolution et république. Égalité, fraternité, c'est notre histoire, c'est toute une éthique. On nous convoite et nos voix vont au con, on les consacre que leur sacré compte.